des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Laissez faire votre clignotant. Entrez directement dans le guide de l'auto. Cube Radio.
Antoine, la fin de semaine dernière, alors que moi j'étais du côté de l'Utah pour parler de la Cadillac Lyric dont on vient de parler, toi tu étais plutôt en Angleterre pour assister un peu à un rêve automobile pour les passionnés nous sommes. C'est le Festival of Speed, qu'on pourrait traduire par le Festival de la vitesse, j'imagine, qui se tient à Goodwood et qui est un événement j'ai l'impression, est carrément exceptionnel.
Ça se tient, en fait, en périphérie du circuit de course de Goodwood. Puis pour la petite histoire, c'est un richissime Anglais qui a décidé un jour de racheter, en 1993, le circuit de Goodwood dans le but de tenir des événements de course automobile. N'ayant pu obtenir les permis nécessaires pour la tenue de ce genre d'événement-là, il a tout simplement choisi d'acheter toutes les terres avoisinantes.
OK.
Pas plus compliqué que ça. Et c'est porté acquéreur d'un terrain total dont la dimension est plus grande que celle d'une ville, là, littéralement.
Okay. Donc, c'est comme si Alain Labrosse s'était procuré la ville de Saint-Eustache plutôt que de faire fermer la piste.
C'est ça. T'as tout compris. Puis évidemment... on est dans une campagne au sud de Londres où c'est très typique comme environnement, où c'est un peu montagneux, beaucoup de champs, beaucoup de très, très, très vieilles bâtisses avec un cachet magnifique. Et lui a décidé de tenir son événement dès 1993 sur place et ça a connu un succès instantané, si bien qu'aujourd'hui, il y a plus de 50 000 visiteurs par jour qui se déplacent pour aller voir cet événement-là.
Mais là, tu disais que c'était une région un peu éloignée de la ville. Comment on fait pour recevoir 50 000 personnes?
Écoute, c'est
pour
pas évident.
Héberger, nourrir, c'est pas accommoder évident. Autant de gens, là.
C'est pas évident. Et à preuve, moi, j'étais là-bas sous invitation par Porsche pour le dévoilement d'une voiture de course Porsche.
Et
il y a tellement pas d'hôtels dans la région qu'on a aménagé un camping un peu luxueux avec des tentes pour accueillir les invités. Alors, j'ai dormi dans une tente sur un matelas approximativement confortable avec des couvertures en entendant les coqs chanter à 4h45 du matin en continu jusqu'à 7h. Fait que t'as pas le choix de te lever. On était en pleine campagne. En arrière de moi, il y avait une ferme, il y avait des chevaux, il y avait... Tu sais, je veux dire, c'est un environnement très, très, très différent de celui d'un hôtel du centre-ville. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Et... la beauté de la chose, c'est que ça permet une proximité avec l'événement qui va t'éviter de devoir te taper 2 heures de trafic dans un rang de campagne unique qui mène vers cet endroit-là. Parce que sinon...
Parce que les infrastructures avoisinantes n'ont pas été prévues pour tenir un événement de cette envergure-là.
T'es dans un petit village, où je sais pas il y a combien d'habitants, mais honnêtement, c'est tout petit, là. Mais sur le site, c'est extraordinaire. Bon, écoute... c'est impossible de couvrir un événement comme celui-là en 24-48 heures. C'est même impossible de tout voir, là. C'est pas plus compliqué que ça, là. C'est grandiose. L'élément clé de cet événement-là, c'est ce qu'on appelle le Hill Climb. Donc, cette petite route, qui est une route qui était sur place, soit dit en passant, là, on n'a pas préparé la route en conséquence. Tout ce qu'on a mis, c'est des balles de foin de chaque côté de la route.
Pour délimiter et protéger.
T'as tout compris. Pour délimiter et protéger ce qui peut se passer. D'ailleurs, il y a eu un accident quand même assez sérieux. Il y a déjà eu 2 décès. À Goodwood, des gens qui ont perdu la maîtrise du véhicule puis qui sont décédés sur place. Mais bref, le Hill Climb, c'est une route qui a un petit peu moins de 2 km de long où on va pousser la machine à sa limite pour essayer de battre le record de vitesse ou de temps le plus rapide.
D'ailleurs, une voiture cette année a battu le record, une voiture qui arrivait de nulle part.
Oui, une petite monoplace 100% électrique avec un réacteur arrière. Tout ce que tu entendais, c'est un genre... le nom de la voiture, le McMurray. Le nom de la voiture, c'est une McMurtry ou McMurray. Mais c'est une voiture monoplace, hyper compacte. ça allait tellement vite et ça défiait tellement toutes les lois de la gravité de la voir aller que tu avais l'impression qu'elle allait s'envoler, littéralement.
Ah oui.
C'était vraiment fantastique de voir ça aller. 39 secondes et des poussières pour franchir le 2 km à partir de zéro, c'est quand même pas rien. Écoute, on a vu défiler à peu près n'importe quoi là-dessus. Là. Ferrari FXX. Les Aston Martin de la F1 étaient sur place. Mm-hmm. Mais il y avait des voitures de course des années 40. Il y avait des voitures de drift. Des vieilles voitures de rallye des années 70-80. Une Renault 5 Turbo.
Et tout le monde s'élance sur cette portion de route pour c'est tenter ça. De battre le record.
Exactement. Puis ce qui était drôle aussi, c'est que tu avais Rolls-Royce avec des gros cabriolets qui faisaient des tours à des gens du public comme ça. Fait qu'une grosse Rolls-Royce
qui n'a évidemment pas battu de record.
Qui n'a pas battu de record et qui se battait contre les lois de la physique aussi. C'est très, 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 très drôle de voir ça. Quelques vieilles motos aussi. Alors, il y avait un peu de tout. Fait que ça, c'est l'événement qui en continu se déroule et tu peux assister à ces accélérations-là sans arrêt puis passer la journée à les regarder aller là, si tu veux. En périphérie de ça, t'as un petit peu de rallye, t'as de la drift avec des voitures Jaguar, t'as plusieurs petits trucs qui se passent en amont côté action. Mais sinon, tu vas aller visiter, bon, d'abord le Supercar Paddock, pour ceux qui se passionnent pour tout ce qui s'appelle Koenigsegg, Pagani, Bugatti, Ferrari,
donc
Lamborghini.
Donc, des véhicules très récents, très exclusifs, très rares.
Oui, parfois des véhicules. Bon, écoute, là, il y avait trois Bugatti, deux Veyron, une Chiron sur place. Des Zenvo, des voitures, des nobles, tu sais, plusieurs bagnoles exotiques d'exception comme ça. Alors, elles étaient toutes présentes, c'est pas plus compliqué que ça. Puis tu sais, rendu dans ce club select là, chacune des voitures a une histoire.
Oui. Parce qu'elles sont à peu près toutes uniques.
Bon, et il y avait une Bugatti Veyron, je me souviens d'avoir vu la portière ouverte et au Sharpie, on avait écrit dans le cadre de porte le record de vitesse qui avait été établi avec cette voiture là à 408,84 km/h.
Au crayon feutre,
au Sharpie.
Wow.
J'ai pris une photo de ça parce que je trouvais ça fascinant.
Ouais.
Et c'est la première Bugatti, de ce que j'ai pu comprendre, qui avait franchi le cap des 405 km/h.
Okay.
Faisait 408,84. Fait qu'on me racontait cette histoire-là. Bref, c'est des histoires comme ça en continu. Puis de voir cette quantité de supercars-là tous à un même endroit... Ça fait en sorte que, bon, d'abord, tu passes à côté d'une Ferrari F8 Tributo ou de la 296 GTB qui vient d'arriver, là, puis c'est pratiquement banal.
Mm.
C'est pas drôle, là. C'est à ce point. C'est vraiment quelque chose de voir ça. Bon, c'est une section qui est commanditée par Michelin. Alors, évidemment, le bonhomme Michelin, j'oublie le nom, le Bebendum, là,
oui.
Était sur place.
Un peu potelé.
Oui, un peu potelé et pas nécessairement habile pour se glisser à bord de toutes ces autos-là. se promenait sur place, bien sûr. Lotus, il a dévoilé sa nouvelle Evija qui était sur place. Il y avait toutes sortes
de trucs. Parce que les manufacturiers, étant donné l'envergure de l'événement, étant donné le côté passion de l'événement, vont en profiter pour dévoiler ou présenter des véhicules.
Ben non seulement ça, mais vont instaurer des pavillons gigantesques comme tu n'as jamais vu. Écoute, Lamborghini et Porsche avaient des pavillons tellement grands que ce sont des espaces où tu amènes ta famille, où tu vas passer une heure ou deux, là.
Ah,
tu sais,
oui.
C'est pas juste un petit pavillon comme au salon de l'auto.
Mais c'est ce que j'allais dire.
De haut,
on y va encore plus grand que dans un salon de l'auto.
Puis tu sais, on a compris un truc. Je pense à Porsche, là-bas, là, qui avait un kiosque de 4400 mètres carrés où... Bon, d'abord, toutes les voitures sont là. C'est pas plus compliqué. Nommes-en une, est là.
Ouais.
Il y avait la nouvelle 911 Sport Classique, Cayenne Platinum, Taycan, Panamera, Boxster. Elles sont toutes là. C'est pas compliqué, là. Et tu arrives sur place et t'es tellement accueilli. Tu sais, je veux dire, t'es un petit garçon de 15 ans qui rêve un jour d'avoir une Porsche, mais on va te traiter comme le gars qui est sur le point de signer un contrat.
Okay.
Tu comprends?
Il y a personne qui prend personne de haut.
Personne.
Okay.
Et ça, j'ai trouvé ça fantastique. Parce que le rêve commence là, quelque part.
Oui, oui.
Le rêve commence là. Alors, tu avais des petits-enfants de 3, 4, 5 ans assis sur des petites Porsche en plastique qui se promenait dans un environnement où on avait mis des jeux de couleurs à terre, où tu pouvais dessiner des Porsche sur un mur.
Puis pendant ce temps-là, papa et maman regardaient les vrais...
T'as
les...
la boutique Porsche avec tous les manteaux, les accessoires que tu peux acheter. T'as le café Porsche. T'as un gros environnement pour aller jaser, pour configurer des voitures sur place. T'as un café-terrasse en arrière. T'as un espace entièrement dédié aux puristes de la mécanique Porsche. Donc, on avait amené un Volkswagen Vanagon des années 80, qui est un camion de service Porsche, sur lequel on avait placé des moteurs de 911 des années 80. Il y avait des trousses d'outils originales dans des housses de cuir qui étaient présentes. La première Boxster 97 était là. Une des premières Boxster.
Qui a 25 ans cette année.
Qui a 25 ans cette année. T'avais une vieille Porsche 924, une 911 des années 70. Des trousses d'outils, des accessoires, des pièces. Tu sais, un environnement garage, mais décoré avec un goût extraordinaire. Fait que chacun des passionnés de Porsche, qu'importe l'angle, pouvait être satisfait d'être présent sur place. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Alors, autant tu avais un petit gars qui rêvait de s'asseoir au volant d'une 911, autant tu avais un gars qui était sur le point de signer un Cayenne, autant tu avais des gens qui étaient installés devant un écran de cinéma où on présentait le dévoilement officiel de la nouvelle 963, qui est la nouvelle Porsche de course qui va courir à partir de janvier 23 du côté des États-Unis. Bagnole qui a été développée en collaboration avec Penske, d'ailleurs, c'est quand même pas rien. Puis on reprend essentiellement dans cette auto-là la mécanique de la 918 Spyder. Mm-hmm. Tu sais, un environnement vraiment, vraiment extraordinaire. Et ça m'a j'ai trouvé ça exceptionnel parce que je trouve que malheureusement, et je dis pas ça uniquement pour Porsche, là, pour plusieurs grandes marques de luxe, on regarde souvent trop la clientèle de haut.
On regarde les gens qui ne sont pas la clientèle de haut. T'sais, on va regarder des gens qui sont des amateurs de haut et on va préférer consacrer du temps à ceux qui sont prêts à acheter un véhicule dans la minute qui suit. Et encore, si on n'est pas déjà client de ces marques-là,
des fois,
de le devenir, ça peut être un pas difficile à franchir.
T'sais, j'ai trouvé ça intéressant aussi comme statistique parce que le relationniste de Porsche aux États-Unis me mentionnait que sur le marché américain, l'acheteur moyen d'une Porsche, que ce soit un Macan ou que ce soit une 911 Turbo S, l'acheteur moyen d'une Porsche a un revenu annuel moyen de plus de 600 000 $.
Oh là! Ce qui signifie donc qu'il a d'autres véhicules que des Porsche aussi, là.
Ça veut dire que un acheteur d'un Macan, qu'importe, n'est pas quelqu'un qui va s'accoter à la gorge pour s'acheter un Macan. La clientèle Porsche, il fut une époque pas si lointaine où Porsche finançait à des taux agressifs, puis on a carrément lâché ça. Là, on est vraiment dans... acheter une Porsche, c'est ce qu'on appelle en anglais un achievement. Puis une fois que tu as mis le pied là-dedans, on veut te garder dans la famille, on veut te faire grandir, puis c'est correct. Mais ce que j'ai adoré là-bas, c'est que justement, même si on est conscient que c'est un rêve, même si le
même
branding...
Même sur ton T4, t'as pas un revenu déclaré de 600 000, tu peux accéder et penser y rêver.
Bien, on te permet d'y rêver et on veut que tu le fasses.
OK.
On veut que tu le fasses. Et c'est ce que j'ai trouvé de plus beau. Et je te dirais que chez Lamborghini, c'était la même chose.
OK.
Ou chez Lamborghini, c'est encore plus
c'est
sélect, tu sais. Puis on sait que c'est une clientèle qui est particulière dans bien des cas. Mais, tu sais, ça m'amène à te dire que des Urus là-bas, là, j'en ai vu comme des Ford Escape ici. Là.
C'est ordinaire. C'est et rendu pas banal.
Au point où, si tu veux te démarquer, il faut que ce soit un Urus modifié par Mansory.
Oui. Donc, encore
et ça, il y en avait. Des Cullinan, c'était la même chose.
Ouais,
écoute, des Rolls-Royce là-bas, ça n'a pas de bon sens.
Mais des gens qui arrivent en Diablo, par exemple, est-ce qu'il y en a tant que ça?
C'est quoi? Je pense que c'est un des modèles que j'ai pas vu. J'ai vu des Countach.
Oui, OK.
J'ai pas vu de Diablo.
Ouais. Parce que à cette époque-là, qui n'est pas si lointaine, on en fabriquait quand même moins. Là.
Ouais.
Des Huracan, c'est courant. Des Urus, c'est courant.
Mais même une Murcielago, il y en avait quelques-unes.
Avec boîte manuelle, là, c'est intéressant. Ouais.
Mais j'ai vu des Countach, pas une seule. Mm-hmm. Écoute, je suis arrivé, une voiture que j'avais jamais vue de ma vie, une B12 5 litres Alpina, qui est en fait une 850 CSI, modifiée par Alpina, BMW. Ça, c'était dans un stationnement. Et là, je t'amène sur ce terrain-là. Il y a un stationnement qui est dédié à des gens qui ont des véhicules un peu plus sélects. Mais monsieur,
stationnement
madame...
de visiteurs. Là.
Stationnement de visiteurs. Okay. Là. Mais ça devient une attraction en soi.
Oui.
Parce que tu t'en vas marcher là-dedans, entre 6 ou 7 Ferrari, tu vas tomber sur une Porsche 944 Turbo, OK, qui est peut-être un peu plus banale, mais t'as... Écoute, c'est drôle, parce que j'ai vu une Chrysler 300 conduite à droite, fabriquée au Canada, puis c'était un peu exotique là-bas,
ben,
tu sais.
Clairement.
Une Camaro ZL1.
OK. Tu me disais avoir même vu un Ram TRX. Là.
Un Ram TRX modifié par NSI.
Oui.
Alors, lui, il n'était pas dans le stationnement du public.
Mais toujours est-il que ça s'est retrouvé en Grande-Bretagne.
Oui, c'est ça, exactement. Mais dans le stationnement du public, écoute, là, des Ferrari, y en avait banal, là. Des véhicules modifiés par Mansory, j'en ai vu 2-3, là. Dans le stationnement du public.
C'est
quand même pas rien. Des Audi RS4 de nouvelle génération familiale, plusieurs. Des Caterham, évidemment, là-bas, c'est très populaire. Des vieilles Aston Martin, ça traîne, tu sais, en Angleterre.
Oui, oui, bon. Je vois bien.
Mais tu sais, c'était que ça.
Fait rêver, là.
J'ai passé 2 heures dans le stationnement du public à regarder des autos alors qu'il y avait un événement automobile à côté. Tu comprends-tu?
Ouais, ouais.
Fait que ça donne une idée de comment c'était grandiose. Cet espace de stationnement-là, avec des trucs complètement éclectiques. Là, tantôt une Dodge Viper, tantôt une Renault 5 Turbo, tantôt, tu sais...
Mais toujours
de
des voitures de puristes et de connaisseurs.
Vraiment,
là,
oui,
surtout.
Vraiment. Puis une panoplie d'Urus.
Mm-hmm. Oui, j'imagine.
T'sais,
encore.
Tous plus vert fluo ou orange les uns que les autres. Parce que si tu n'achètes un gris, ben tu rentreras pas là, c'est trop banal. C'est à peu près ça, là. C'était fascinant de voir ça. Puis si tu arrives avec une... honnêtement, là, si tu arrives sur place avec une Ferrari 360 Modena, oh boy, t'es pas le king de la place, là. OK,
non,
là, on va te permettre de la stationner là.
Dans l'herbe, là, au fond.
Mais ils sont toutes dans l'herbe, soit dit en passant. Mais écoute, il y avait une Supra qui était là, sur place, conduite à droite,
mm-hmm.
Conduite à gauche, pardon, parce qu'en Angleterre, c'est exotique d'avoir une conduite à gauche, tu sais.
Oui, tout est relatif.
C'était assez fascinant. Il y avait un Dodge Demon.
OK.
En Angleterre, tu sais. Ouais. Puis on n'en a pas fait beaucoup, des démons, là.
Non.
Bref, c'est ça. Ce stationnement-là, c'est une attraction en soi. Là, après ça, ben.
Oui, tu me disais que pour les 50 ans de BMW, de la division M de BMW,
ouais.
On avait organisé une attraction particulière.
Oui, bien, deux événements, là. Deux événements d'importance, je pense, qui ont eu lieu, là, cette année. Tu sais, bon, je pourrais aussi te nommer le dévoilement officiel de la Polestar 5.
Oui.
Qui s'est fait sur place, mais les 50 ans de la division M de BMW ont été couronnés par une cérémonie grandiose avec des feux d'artifice en plein jour. Je ne sais pas qui a eu l'idée de faire... Heureusement, il ne faisait pas super gros soleil, là, mais... tu les vois moins que si c'est le soir. Là.
Clairement.
Hein? On s'entend là-dessus.
C'est moins spectaculaire.
C'est ça. Mais un chant d'opéra, une cérémonie officielle avec différentes générations des voitures M de BMW. On a carrément arrêté l'événement pour faire la cérémonie. Il y a aussi eu le dévoilement officiel de la Porsche 963, mm-hmm. comme je te disais tantôt, qui s'est couronné par le hill climb de la voiture qui passait sur place. Les pilotes de la bagnole étaient là. Alors, tu sais, les constructeurs automobiles sont rendus à faire des dévoilements là-bas plutôt qu'ailleurs. C'est un endroit pour le faire, honnêtement. Puis c'est couvert de toutes sortes de façons sur les réseaux sociaux. C'est vraiment impressionnant.
Chaque fois qu'on me parlait de ce Festival of Speed, on me parlait de la section quartier. Qu'est-ce qu'il y avait cette année dans cet enclos-là ou cette section-là?
Écoute, on recrée essentiellement un concours d'élégance de Pebble Beach, mais à plus petite échelle.
OK. Sans terrain de golf.
Sans terrain de golf, ben, c'est-à-dire que c'est avoisinant. Là.
Ah, OK.
Mais
coudonc, il y a tout là-bas.
Il hein? y a vraiment de tout. Mais je ne sais pas comment t'expliquer à quel point c'est particulier d'arriver sur un terrain, parce que c'est un événement qui est ouvert au public, hein. Tu sais que Pebble Beach, c'est sur invitation, tu te pointes pas là comme ça, mais ça, c'est ouvert au public. Alors, les gens de la place, ils veulent y aller, ils paient un frais d'entrée, puis ils rentrent. C'est pas plus compliqué que ça. Mais il y a un grand, grand, grand respect pour l'automobile là-bas. Tu sais ce qui n'existe pas au Québec? L'automobile, ça pue, c'est salaud, on veut s'en débarrasser, ça fait du bruit, c'est polluant.
On met des contraintes de plus en plus.
C'est ça, les circuits de course, on veut les éliminer les uns après les autres. Il y a tout le temps du monde pour cracher sur la F1 à chaque fois que ça se passe.
On l'a très bien vu il y a deux semaines.
C'est ça. Alors, là-bas, là, ça se peut pas.
C'est une culture automobile qui est forte aussi.
Oui, mais pas plus.
En Angleterre, on a une culture automobile qui est forte.
Oui, oui, on a une culture automobile qui est forte, mais je veux dire... Il n'en demeure pas moins que on a ce respect-là aussi pour l'histoire, pour tout ce que ça représente. Puis de Cartier, c'est carrément un petit concours d'élégance de Pebble Beach. Donc, tu arrives sur le terrain, tu as des Lotus Europa, tu as une Lancia Stratos qui a attiré mon œil, tu as des Ferrari de plusieurs générations. Bon. Tous les supercars, là.
F40,
F50. 288 GTO, F50 Spider était là. Ferrari Enzo était présente sur place. La Ferrari était là. Dans une couleur bleu marine, c'est assez particulier.
Okay.
Écoute, il y avait une Bugatti type 57C Atalante. Je pense que c'est une auto qui doit valoir entre 30 et 40 millions de dollars. Quand même pas rien. Je pense que le clou, c'était les 7 McLaren F1. Pas une, 7. Ça vaut entre 20 et 25 millions de dollars la copie.
Et là, on en avait réuni 7 pour l'occasion.
Tu sais?
Wow.
Dans la pelouse, qui ont dormi à la pluie, il y avait des taches d'eau dessus au petit matin le lendemain. Et puis, tu pouvais carrément t'accoter sur la voiture et faire un selfie.
C'était libre, là.
La proximité était impressionnante, tu sais?
Bref, on retrouvait là des véhicules qu'on... retrouve normalement dans un musée ou dans une cloche de verre. Là.
C'est ça, exactement. Okay. Mais là, c'était un peu partout comme ça. Il y avait des Ferrari aussi des années 60, une 330 GT qui avait été préparée par un carrossier français dont le nom m'échappe, une pièce unique au monde que j'ai trouvée fabuleuse. 275 GTB4 identique à celle que Steve McQueen avait possédée. C'était là. Bref.
Est-ce qu'il y avait des pilotes connus sur place? Est-ce qu'il y avait des acteurs de l'industrie qu'on connaît bien, j'imagine que des anciens pilotes de Formule 1 peuvent accéder à cet événement-là.
Il y en a eu sur place. Ouais. J'ai vu quelques images passer, d'ailleurs, de gens qui étaient connus. Bon, la première personne à avoir gagné, j'oublie son nom, mais le premier qui a gagné les 24 heures du Mans au volant d'une Porsche était sur place pour le dévoilement de la 963. Tu sais, bon, oui, c'est sûr que ça attire les passionnés automobiles aussi, là, mais te nommer des noms, là, je ne pourrais le faire. Tu sais, comme je te dis,
c'est un échantillonnage.
Hein, c'est vraiment un échantillonnage. Quand tu t'en vas sur place là-bas, tu sais, En arrière des gros kiosques vont se trouver aussi beaucoup de petits kiosques vraiment cool. Toi qui s'y connais dans le monde de la voiture miniature, il y en avait des kiosques
évidemment,
de ça aussi. Tu sais, pas besoin
évidemment.
De te dire. Il y a des gens qui vendaient des voitures de luxe aussi.
Okay.
Écoute, il y avait même...
Il y a des encans aussi sur place de véhicules à vendre ou pas?
J'ai pas vu d'encans.
Okay.
Écoute, il y avait même une petite entreprise de Londres qui était sur place qui importe des camions Peterbilt et qui aménage des habitacles d'un luxe extraordinaire.
Parce qu'a priori, je ne voyais pas le lien entre cet événement-là et...
Non, mais c'est pour te dire à quel point, tu sais, un Peterbilt en Angleterre, je ne sais même pas si tu peux rouler ça.
Ouais.
Parce que là-bas, ce sont des camions, ce qu'on appelle des flat nose. Tu n'as pas de gros camions comme on a aux États-Unis en raison des longueurs hors tout ça. Fait que il doit y avoir, bon, je connais pas les règles, là, mais tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de règles qui sont franchies là-bas, de toute façon.
Oui.
Il y a beaucoup d'excès, mais c'est vraiment un événement grandiose à ne pas manquer. Ceux qui cherchent des pièces, des outils, ça peut se trouver là. Écoute, qu'est-ce que j'ai pas vu là-bas? Pas beaucoup de voitures japonaises, ça, non. C'est sûr.
Il y avait pas beaucoup de véhicules américains non plus?
C'est-à-dire des véhicules américains mythiques. Il y avait de la Corvette, il y avait de la vieille Corvette, des split windows, bon, des trucs comme ça. Il y avait même un pavillon de voitures 100% électriques. On prend le virage vert quand même assez au sérieux.
Qu'est-ce qu'on retrouvait là?
Polestar
alors?
Avait un kiosque extraordinaire. Là. Okay. On avait le Roadster Polestar, on avait la Polestar 2 là, dans son édition spéciale qu'on a dévoilée tout récemment, la nouvelle Polestar 5 qui est un concept encore, mais qui a été dévoilée aussi. Henry Fisker lui-même était sur place pour présenter le Fisker Karma et je suis tombé carrément sous le charme de la Renault 5 électrique qui était là-bas. Vraiment une belle petite voiture. Et ça, on aimerait ça chez nous. Évidemment que ça n'arrivera pas, mais c'est vraiment une petite auto électrique très, très fascinante.
Qui ressemble un peu à l'ancienne?
Fidèle.
J'ai pas vu de photo ni
fidèle,
rien.
Okay. Fidèle à l'ancienne, comme la Cooper était fidèle à l'ancienne à Cooper. Là. On est carrément là-dedans. D'ailleurs, dans un format de voiture sous-compact, là, c'est pas plus gros qu'une Kia Rio. Là.
Okay.
Fait que c'est vraiment charmant comme bagnole. Je peux pas vous montrer les images à radio, là, mais Germain, une fois qu'on aura fini d'enregistrer, j'ai des photos sur mon téléphone.
Avec plaisir.
Oui, c'est
avec
ça.
Plaisir.
Fait que voilà.
C'était une première expérience, mais si tu as la chance d'y retourner...
J'espère que ce
ne
sera pas la dernière.
Oui, c'est ça.
C'est ça, exactement.